les deux pieds bien sur Terre à présent, pour s'intéresser au sol, celui que nous foulons tous les jours. Sur Terre, 148 millions de kilomètres carrés de sol, qu'on maltraite bien souvent, qu'on ignore, et pourtant, ils pourraient nous être utiles, ces sols, comme solution au réchauffement climatique, Lucille Solari.
Oui, tout à fait. En même temps, c'est pas franchement nouveau qu'on sait que le sol peut être utile pour réguler le climat. Simplement, on fait pas forcément ce qu'il faut pour optimiser cette donnée, puisque le sol est un formidable agent de stockage du CO2. Et cela grâce à l'humus. Alors l'humus, vous savez, c'est ce truc que je voulais vous amener depuis chez moi,
oui.
Mon humus forestique, j'ai pas pu prendre à cause de la neige. C'est en fait la matière qui résulte de la décomposition de la matière organique et qui nous rend une quantité de service. Il fertilise la terre, hein, parce qu'on en a aussi besoin du sol pour manger, tout simplement.
Ah oui, c'est vrai.
Il assure son drainage et donc il stocke le CO2. Donc, quand un hectare de surface agricole perd 10 tonnes de sol, ce qui arrive régulièrement, on perd des milliers d'hectares chaque année dans le monde de surface agricole et on perd des tonnes de sol. C'est de l'humus qui disparaît et avec lui, adieu veaux, vaches, cultures et CO2. Le CO2 qui est libéré dans l'atmosphère va évidemment participer au réchauffement climatique. Vous me suivez, Stéphane ?
Oh oui, je vous suis parfaitement. Donc si j'ai bien compris, quand l'humus fout le camp, tout fout le camp, quoi.
Voilà.
En gros, c'est ça. On va donc essayer d'en savoir un peu plus sur les mécanismes d'interaction entre l'humus et le climat, et puis sur les causes de cet appauvrissement des sols, avec une spécialiste des sols en sciences, on appelle ça une pédologue, Elena Havlicek, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes collaboratrice scientifique à l'Office fédéral de l'environnement, vous êtes également maître d'enseignement à l'université de Neuchâtel, c'est juste ?
Chargée d'enseignement
à l'université de Neuchâtel. Et d'abord, ce constat, les sols qui souffrent, hein, notamment d'érosion, ça veut dire qu'on perd chaque année des milliards de tonnes de sol, c'est ça ?
Oui. Alors, je dirais, quand on parle de perte de sol, il faut bien distinguer entre la perte en surface, c'est-à-dire les sols que l'on va bétonner, et puis la perte qualitative. C'est-à-dire, on peut perdre du sol en quantité, mais on peut aussi le perdre en qualité. Mmh. Et l'humus, quand on perd de l'humus, c'est surtout la qualité des sols qui est perdue.
L'humus, c'est quoi exactement ?
Alors, si vous permettez, je vais peut-être vous expliquer le cycle de la vie, tout simplement.
Mais volontiers, allez-y.
Une petite heure, là, allez-y.
Oui. Alors, on va pouvoir s'en sortir.
D'accord.
Non, la première chose qui est intéressante de savoir, c'est que humus et homme partagent la même étymologie. Alors, je ne sais pas exactement jusqu'où ça va chercher, dans quelle racine indo-européenne, mais c'est la même étymologie, ce qui montre déjà son importance. Et au fond, pour comprendre ce que c'est l'humus, il faut juste comprendre comment poussent les plantes. Les plantes, elles boivent l'eau du sol avec des éléments minéraux. Donc, les plantes vont utiliser les minéraux du sol, comme le phosphore, le calcium, etc. Elles vont également utiliser le carbone de l'air, et elles ont un moteur qui est l'énergie solaire. Et avec ce moteur, elles vont produire de la biomasse, donc des feuilles, des fruits, etc. Et puis tout ça, ça va rentrer dans la chaîne alimentaire. Les herbivores vont manger ces herbes, les carnivores vont manger les herbivores, etc. Mais tout ce monde, un jour ou l'autre, va mourir et va tomber au sol. Et il va se transformer en ce qu'on appelle la litière. C'est la matière organique morte. Alors là, on est déjà à une étape. Mais ça, c'est pas encore l'humus. L'humus, c'est quand la litière est fragmentée et humifiée. Voilà, c'est pas très compliqué. Donc, transformée chimiquement, hein, c'est quand la feuille est transformée chimiquement en des molécules organiques de couleur assez foncée, habituellement, que se crée l'humus. Et cet humus, c'est des molécules assez grosses, assez stables, qui restent dans le sol et qui sont ensuite, peu à peu, minéralisées. Et les minéraux, c'est ce que mangent les plantes.
C'est ça.
Et
voilà.
on a bouclé le cycle.
On a bouclé la boucle.
Donc l'humus, si vous voulez, c'est un déchet de la vie, mais un déchet excessivement précieux.
Et en quoi joue-t-il, cet humus, un rôle dans la régulation du climat ?
Alors, on va peut-être dire, l'humus, c'est pas seulement dans la régulation du climat. C'est nous qui maintenant le voyons comme une possibilité de régulation du climat. L'humus, c'est, on pourrait dire, pratiquement la bonne à tout faire. En fait, moi, j'aurais tendance à dire que l'humus, c'est le véritable or noir. Quand on parle de l'or noir, le pétrole, le charbon, en fait, c'est de l'humus qui a mal tourné, hein,
ouais,
simplement.
Oui, c'est vrai.
C'est simplement de l'humus.
C'est de l'humus très vieux.
Voilà, c'est de l'humus qui a été soustrait à l'action de la vie. Parce que tous ces phénomènes dont je vous parlais, fragmentation, humification, minéralisation, c'est les organismes du sol qui le font. Alors, pourquoi il joue un rôle cet humus, il joue un rôle dans le sol, simplement c'est une brique du sol.
Oui.
Sans humus, pas de sol. C'est simple. Voilà.
Mais vis-à-vis du climat.
Alors, vis-à-vis du climat, c'est une question d'équilibre. C'est au moment où nous avons, où l'homme a commencé à cultiver les sols naturellement contiennent un certain taux d'humus. De les mettre en culture abaisse obligatoirement ce taux d'humus. Parce qu'en fait, on ouvre, si vous voulez, on laboure, on ouvre, etc. On le met à la lumière, ça accélère l'activité des organismes du sol, donc ça accélère la minéralisation, la phase finale. Donc, on a relâché une partie de cette carbone dans l'air. Et il y a des chiffres relativement... Alors, ils sont très globaux, hein, c'est difficile de savoir exactement. Mais actuellement, on pense que, en gros, depuis le début de l'agriculture jusqu'à vers 1850, donc toute l'ère pré-industrielle, on aurait relâché environ 320 gigatonnes de carbone dans l'air par conversion de terrain naturel en terrain cultivé. Et depuis 1850, on en a relâché 136. Donc, presque autant que toute la partie avant. Et ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on relâche pas seulement, c'est pas seulement la conversion des terrains qui relâche ce carbone dans l'air, c'est aussi l'utilisation de cette humus qui a mal tourné, donc des énergies fossiles. Et eux, ça participe à 270 gigatonnes. Donc, au fond, en 150 ans, on a relâché environ 400 gigatonnes, dans l'air, au lieu des 320 pendant les 8 millénaires précédents.
Raison pour laquelle on parle aujourd'hui de labourer moins, on parle de semis direct.
Entre autres.
Voilà. Très rapidement, est-ce qu'il y a différents types d'humus dans le monde selon les climats, selon les régions?
Oh oui. Alors, déjà, il faut bien l'avouer, on ne sait pas beaucoup de choses sur l'humus. Donc, je vous parlais de cette chose simple qui est la dégradation d'une feuille. Aujourd'hui, sur la véritable dégradation d'une feuille avec tous les processus, y compris l'humification, minéralisation, on en sait moins que probablement sur la planète Mars.
Incroyable.
Alors que c'est un phénomène peut-être trop banal. Et bien sûr qu'il y a des humus différents, on les connaît pas. C'est des molécules tellement complexes, il y a personne qui s'intéresse réellement à toutes. Voilà, quelles sont leurs compositions.
Alors, il y a un type d'humus qu'on connaît bien ici, c'est ce qu'on appelle l'humus forestier. C'est le fameux humus forestier que je voulais vous apporter, que j'ai pas pu vous apporter. Alors, il y a beaucoup de forêts en Suisse. Est-ce que ça veut dire qu'on a beaucoup d'humus? Quelle est la situation de l'humus en Suisse?
Je suis désolée, on le sait pas non plus.
Alors, c'est quand même votre boulot d'explorer ça.
Bien entendu que c'est notre boulot. Alors, mais vous vous rendez compte de ce qu'il faudrait pour... on sait par exemple, on connaît déjà pas tous les sols de Suisse. On n'a pas de carte des sols de Suisse. On a la carte des forêts de Suisse, on a des cartes géologiques de Suisse, mais on n'a pas de carte pédologique. Et c'est ça qu'il nous faudrait déjà pour pouvoir estimer les humus.
C'est pas en cours d'élaboration, ça?
Alors, malheureusement, pas suffisamment. On essaye de valoriser actuellement, dans le cadre de certains travaux, justement les données qu'on a, mais c'est, faut l'avouer, c'est un petit peu misérable pour l'instant.
Mais on peut imaginer que chez nous en Suisse, il est un peu comme dans le reste du monde, il est en phase d'érosion finalement, cet humus, il disparaît, c'est ça?
Alors ça dépend. Dans les forêts, il reste probablement stable.
Parce qu'on le laisse tranquille, c'est ça?
Exactement. Surtout les forêts jardinées. Si vous faites une coupe rase dans une forêt, alors vous allez obligatoirement détruire, perdre une partie de l'humus, ça c'est sûr.
Ouais.
Mais dans les forêts gérées proches de l'état naturel, l'humus va rester stable. Maintenant, attention, humus forestier, vous en avez des forêts très différentes, avec des humus très différents aussi.
On va parler dans quelques instants justement de l'humus forestier, on va voir qu'il y a des solutions peut-être de ce côté-là. Juste encore une petite précision, est-ce qu'il faut dire que l'humus est victime de l'érosion, ou est-ce que c'est sa disparition de l'humus qui entraîne de l'érosion? Vous voyez ce que je veux dire?
Je vois très bien. C'est les deux.
D'accord. Mon capitaine.
Comme d'habitude, on ne va pas vous répondre oui, non. C'est les deux, en fait.
C'est des réponses de Normand que vous nous faites ce matin, Hélène.
Alors, quand vous parlez de sol, c'est toujours des réponses de Normand. L'humus, c'est ce que je vous disais, c'est la brique du sol. Donc, si vous diminuez la quantité de briques dans le sol, ça veut dire que vous allez diminuer sa structure, vous allez le rendre fragile et il va être érodé. S'il est érodé, il va emporter ce qui lui reste de l'humus.
Alors,
c'est des phénomènes concomitants.
C'est ça, un sol fragilisé et avec l'idée de pouvoir rééquilibrer ce sol. Des solutions existent, effectivement, vous l'évoquiez. Oui, c'est ça, Lucille. Des solutions écologiques et respectueuses de l'environnement. L'une d'entre elles commence à émerger. C'est une technique qui frappe par sa simplicité. Il suffisait d'y penser. Cette solution se résume par un acronyme on aime ça dans ces QFD forcément, c'est BRF, Lucie.
Oui, pour bois raméal fragmenté, une solution technologique très simple, née dans les années 70 déjà, mais qui ne commence à émerger réellement que depuis quelques années. Une technologie née de l'observation de la nature, c'est tout bête, et observer la nature, c'est ce que fait très bien Ernst Zürcher, professeur à l'école et chercheur à l'école du bois à Bienne. Il a fait de son jardin un véritable laboratoire à ciel ouvert. C'est là que je vous propose de le rejoindre. C'est maintenant la troisième année qu'il teste le BRF.
C'est un terme qui a été créé, inauguré par des chercheurs canadiens, des forestiers canadiens de l'Université de Laval, sur la base de la compréhension des phénomènes de formation des sols forestiers. Et on s'est rendu compte que les forêts ont une capacité de production de biomasse absolument étonnante. C'est du niveau de, pour le bois, de 10 mètres cubes par hectare et par année. C'est une masse énorme de bois qui est chaque fois produite sans aucun engrais, sans aucun pesticide, de manière absolument naturelle. Pendant des millénaires, des siècles, des millénaires, comment est-ce que ça fonctionne? Bon, il y a l'association avec des champignons. Au niveau de la biomasse du sol, de la formation des sols, la forêt qui pousse, c'est des arbres qui grandissent et qui sont en concurrence les uns avec les autres. Et à mesure qu'ils grandissent, ils perdent leurs branches inférieures qui entrent dans la partie ombragée de la forêt. Et plus l'arbre grandit, plus il perd de biomasse dans les parties inférieures. Et à la fin, on a un dôme forestier. Et chaque année, vous avez de la biomasse, des brindilles, des branches qui tombent, des branches qui ne sont plus fonctionnelles. Et c'est en fait une qualité de bois particulière. On appelle ça du bois juvénile, du bois avec une cellulose qui est différente de celle de la cellulose du bois adulte, qui a une fonction différente dans le tronc. Et on s'est rendu compte que la transformation par les champignons de ce bois juvénile, de ces brindilles, de ce bois de petite dimension, est différente de celle qu'on observe avec des copeaux de bois où on aurait déchiqueté des troncs adultes. Donc ce bois juvénile a une autre flore bactérienne, une autre flore microbienne de champignons, des insectes. C'est une flore extrêmement riche qui va transformer ça et participer à l'humification, disons la formation d'humus. Et l'humus forestier est extrêmement riche en carbone. C'est ce qu'on appelle des puits de carbone extrêmement puissants et en plus extrêmement capable d'accumuler l'eau pour traverser. On n'a jamais arrosé une forêt, par exemple, même dans les étés les plus difficiles. Les forêts poussent toujours, elles n'ont jamais, très rarement, des problèmes d'alimentation en eau, parce que leurs sols sont extrêmement riches en capacité.
Voilà pour ces premières explications d'Ernst Zürcher. Pour l'instant, quel est le rapport avec le bois raméal fragmenté, le BRF, Lucille?
Je vous le disais tout à l'heure, le BRF est une technologie qui imite la nature.
Exactement, on a compris comment fonctionne une forêt avec sa formation des sols et on s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas dévier une partie de la masse organique des arbres, disons ces jeunes brindilles, ces jeunes bois, et ça c'est valable pour la forêt, mais c'est valable pour la taille des arbres en ville, c'est valable pour l'arboriculture, toutes ces jeunes branches, on pourrait la faire passer par un processus de formation des sols au service de l'agriculture, au service des maraîchers, des jardiniers. Donc, on prélève ces branches, on les broie pour accélérer le processus. En principe, c'est toujours quand les branches sont sans feuilles. Ce n'est pas pendant la période de végétation où toute la physiologie a lieu dans les feuilles et où toute la richesse et l'énergie, les sucres et tout ça est concentrée en périphérie pour la photosynthèse. On attend l'automne, l'hiver, et c'est à ce moment-là qu'on taille les arbres. Et là, vous avez tous les potentiels sont concentrés dans les branches. Et là, vous avez la richesse en sucre.
Comme ici, par exemple, parce qu'il y a un tas là, mais là, il y a les feuilles. C'était un petit chêne, ça, non?
Ça, c'est des jeunes chênes.
Ouais. Ouais. Voilà. Ça pourrait rentrer dans la composition, dans la fabrication du BRF.
Absolument. Parce que ces feuilles, c'est des jeunes chênes qui gardent leurs feuilles pendant à travers l'hiver. C'est une caractéristique des chênes. Ils maintiennent leurs feuilles, ils ne les font pas tomber. Et ces feuilles ont perdu leur substance, elles ont été retransférées à l'intérieur des tiges, mais elles contiennent encore des tanins et des substances intéressantes pour le sol, qui sont très appréciées aussi par les arboriculteurs pour le développement des goûts, par exemple, des fruits. Ouais. Donc ce chêne, par exemple, on peut le broyer. J'ai aussi du noisetier, on peut broyer des arbres fruitiers, etc., plutôt des feuillus. Et vous avez ici toutes ces jeunes tiges, je viens de les broyer ce matin.
C'est tout frais, ça.
Pour montrer à quoi ça ressemble. Tout est concassé, c'est des dimensions de 1 ou 2 cm au maximum. Et ces tiges ont été vraiment éclatées par la broyeuse. Et là, l'eau peut pénétrer. Chaque partie de ces fragments de bois sont maintenant ouverts à l'attaque des champignons et à la transformation. C'est un matériau qui est ouvert. Il est extrêmement intense en odeur. Ça montre que les substances sont en train de se dégager et tous les contenus sont disponibles pour une décomposition. C'est très riche en sucre, en tanin, en jeune cellulose. C'est autre chose que du bois adulte, en lignine. Et tout ça va donc donner un processus de formation des sols très intéressant, de fourniture de matière organique pour les sols.
Voilà, donc ce que nous dit Ernst Surcher, professeur à l'école du bois à Bienne, c'est que finalement, il suffirait pour améliorer la fécondité d'un sol de broyer les tailles des arbres et puis de les épandre comme ça sur le sol, c'est ça?
Voilà, c'est aussi simple que ça. Le broyat est disposé frais ou composté sur une fine pellicule de sol cultivé. Alors ça marche dans votre potager, bien sûr, mais c'est aujourd'hui une technique qui intéresse de plus en plus d'agriculteurs, même si ça reste peu connu et peu pratiqué encore en Suisse. Cela dit, ça pose quand même une question, Hélène Havlicek, parce que si on enlève, on passe du potager, de son potager, à une échelle un peu plus grande, à l'échelle d'une exploitation agricole. Donc, si on enlève à la forêt sa matière première pour faire du BRF, est-ce que ça ne risque pas du coup d'affaiblir la capacité de la forêt à produire à son tour de l'humus?
Alors voilà, c'est exactement c'est un des problèmes supposés. Alors je le précise, je suis pas du tout une spécialiste de cette technique, mais quand vous m'en avez parlé, évidemment, je suis allée rechercher dans la littérature scientifique. Et ce qui m'a frappé, c'est le peu de littérature scientifique là-dessus. Donc je dirais, faut faire attention entre ce qui est des convictions et des croyances de gens qui.
Mais c'est à l'étude. C'est à l'étude quand même.
Oui, mais ça a commencé déjà dans les années 70.
Oui.
Et si depuis les années 70 on n'a pas avancé là-dedans, c'est que il y a probablement quelque part des problèmes qu'on peut identifier.
C'est peut-être que ça bloque ailleurs, du côté de l'industrie.
Ça peut aussi. Mais habituellement, les chercheurs, quand même, vous avez de nombreux instituts de recherche quand même sur les sols où on fait ce genre de choses.
Alors, l'Agroscope fédérale a tenté un début, une ébauche apparemment de recherche qui a tourné court assez vite, me disait Ernst Surcher, parce que ils ont considéré que la productivité avec ce type de technique n'était pas suffisante. Donc là, ça pose la question de quel type d'agriculture nous voulons, quel type d'agriculture, quel type de productivité. Est-ce qu'il faut rester dans cette obsession de la productivité?
Alors, c'est aussi une question simplement quel type d'humus. Un humus forestier n'est pas un humus de champ cultivé, n'est pas un humus d'une prairie. C'est des types d'humus complètement différents. Et donc, les organismes qui vivent dedans sont différents. Dans la forêt, vous avez des organismes spécialisés dans la dégradation. Ernst Surcher l'a évoqué, la lignine. Mmh. La lignine, c'est un composé qui est extrêmement résistant à la dégradation. Les seuls qui arrivent à dégrader la lignine, c'est des champignons. En forêt, pas de problème, des champignons on en a. Dans les champs cultivés, il y a bien sûr aussi des champignons, mais jamais dans les mêmes proportions ou pas forcément les mêmes champignons. Donc on risque de se retrouver avec des éléments qui ne se dégradent pas. Et puis après c'est une question de quantité.
Bon, les engrais chimiques c'est pas terrible non plus pour la dégradation à long terme.
On n'est pas en train de parler d'engrais chimiques. On est en train de parler de restituer, par exemple, à des champs agricoles des humus qui proviennent, par exemple, du compostage des herbacées, qui sont les humus adéquats pour ce type de production, qui sont des humus qui sont rapidement remis en circulation, qui libèrent relativement rapidement des éléments minéraux.
Donc là, c'est ça pour vous la piste la plus intéressante pour recréer de l'humus sur nos champs, hors des forêts,
avec,
dans nos prairies.
Simplement, je veux dire, ce qu'on fait depuis des millénaires, avec du fumier, avec des résidus de récolte. Ça, c'est la voie qui est la plus proche de ce qui se passe naturellement.
Hélène Havlicek, pédologue, collaboratrice scientifique à l'Office fédéral de l'environnement et chargée d'enseignement à l'Université de Neuchâtel. Merci pour ces premières pistes de réflexion autour de l'humus, l'importance du sol que nous foulons tous les jours et l'importance de cet humus.